Vous écoutez On lit pour vous.
Muscu pour tout le monde. Un texte d'Alain Vadeboncœur, publié dans l'actualité édition de juin 2026. La musculation, muscu pour les intimes, souffre d'un malentendu. Est-ce réellement une affaire de gym, de miroir, de poudre protéinée et de leg day? Pas vraiment. La muscu, c'est la santé, tout simplement. C'est ce que je découvre, moi, qui ne suis pas un adepte de la fonte, mais qui réussit depuis quelque temps à intégrer dans ma vie une vingtaine de minutes quotidiennes de cette activité plus noble qu'on ne le pense. Parce que voilà, la muscu sert d'abord à mieux vivre, ce que rappelle fort à propos la récente mise à jour des recommandations du Collège américain de la médecine du sport en la présentant comme un outil de santé publique, ce qui a le mérite de bousculer bien du folklore. Il réaffirme également avec force que la muscu, c'est aussi simple qu'accessible. Un message rafraîchissant qui n'est pas étranger au fait que depuis 2009, année de la dernière position publiée, la science de l'entraînement musculaire a franchi des pas de géant. Cette nouvelle mouture, en prenant appui sur une vaste synthèse de 137 revues systématiques, totalisant plus de 30 000 participants, remet plusieurs mythes en question. Bien que ni vous, ni surtout moi, ne soyons appelés à devenir des haltérophiles convaincus et convaincants, nous avons tout à gagner à adopter ladite muscu. C'est qu'elle n'améliore pas seulement la force, mais aussi l'endurance, l'équilibre, la vitesse de marche et même le lever de notre chaise. Plusieurs de ces paramètres intéressent peu les influenceurs, mais tout le monde devrait la prendre au sérieux afin de ralentir les effets du vieillissement, notamment pour éviter de tomber, se relever plus facilement et monter l'escalier sans négociation diplomatique avec la rampe. On nous rappelle également que la muscu est associée à une foule de bénéfices variés pour la santé qui débordent largement la petite vie de nos myocytes, ces admirables cellules musculaires, en diminuant la mortalité du reste, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les troubles mentaux, l'insomnie et que sais-je encore. Juste du bon. Une recommandation centrale est d'ailleurs aisément applicable puisqu'il s'agit simplement de pratiquer le renforcement de chaque groupe musculaire au moins deux fois par semaine en sollicitant les principaux muscles sans forcer exagérément et en augmentant doucement le niveau d'effort. Autre constat clair, pour la plupart des gens ordinaires, le défi est de persévérer. Justement, les auteurs insistent sur le fait qu'une foule de façon valable permette de maintenir l'atteinte des objectifs, allant des programmes d'exercice à domicile, aux bandes élastiques et des poids libres, aux machines sophistiquées, en passant par les circuits les plus sobres ou les plus compliqués, parce que tout fonctionne. Le meilleur exemple n'est d'ailleurs sans doute pas en train de suer sa vie en camisole trop ajourée sur TikTok. C'est plutôt vous et moi si nous pratiquons longtemps un exercice de niveau accessible. Même chose pour les séquences hyper complexes, l'alternance obsessive entre machine et poids, le tempo liturgique des répétitions, l'heure de la séance, tout cela compte peu. Et faut-il souffrir jusqu'à l'apoplexie? Que non! Se rendre à l'épuisement musculaire à chaque série, grimacer avec panache et terminer sa meurtrissante séance en doutant de ses choix de vie n'est pas un prérequis pour en bénéficier. Bref, inutile d'immortaliser son ultime flexion bicipitale comme dans la scène finale d'un film de Rambo, à moins d'être Rambo, bien entendu. Il s'agit de savoir quel est l'objectif. Pour accroître sa force, mieux vaut soulever des charges assez lourdes, exécuter des mouvements de grande amplitude et aligner deux ou trois séries chaque fois à raison d'au moins deux séances par semaine. Si vous visez plutôt le galbe, soit l'hypertrophie musculaire, la quantité hebdomadaire de répétition ressort comme le principal facteur de gain. Enfin, pour la puissance, qui est la capacité de générer promptement une force donnée, si essentielle pour les gestes rapides de la vie réelle, les charges modérées soulevées rapidement, comme il se doit, sont particulièrement indiquées. La muscu constitue donc un levier fort efficace en santé. Se forcer à forcer un peu, mais avec assiduité, changera bien des choses pour le mieux. Une vérité d'autant plus importante que, dans la triste réalité, cette majorité vieillissante à laquelle j'appartiens de plus en plus ne la pratique pas régulièrement ou même pas du tout. Il s'agit maintenant de s'y mettre une fois pour toutes et n'hésitez jamais à consulter un spécialiste, physiothérapeute ou kinésiologue pour avancer sans risque, surtout si c'est nouveau pour vous. Allez hop! Et 9 et 10. Fin de cette chronique du Dr. Alain Vadeboncœur, titrée « Muscu pour tout le monde », publiée dans l'actualité édition de juin 2026.
Martin Matt, « J'ai toujours besoin de me renouveler », un texte de Michel Lemieux, paru le 20 mai 2026 dans Virage. Sur scène et à l'écran, Martin Matt cultive l'image d'un gars arrogant à notre plus grand plaisir. On voudrait le croire convaincu de sa quasi-perfection, mais en privé, l'artiste doute parfois de lui et de sa plume. Loin de le freiner, cette incertitude le pousse à se renouveler sans cesse, quitte à prendre le risque de mettre fin trop tôt à ses plus grandes réussites. À 56 ans, Martin Matt est devenu comme son père. En fait, il s'en est plutôt inspiré pour créer « Vitrerie joyale », une autofiction écrite en collaboration avec François Havard et diffusée sur Prime Video. La comédie dramatique en 6 épisodes replonge l'acteur dans ses propres souvenirs de jeunesse, alors qu'elle nous transporte dans le Québec des années 1990. Je me suis inspirée de lui en tant que personnage, explique Martin. Il a sa part de problèmes. Il a 2 enfants qui travaillent pour lui dans sa vitrerie. L'un veut devenir humoriste, l'autre à un accident d'auto. C'est donc très inspiré de notre histoire, mais ça prend une direction qui n'est pas habituelle dans ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. La série adopte un ton plus dramatique que ce que Martin Matt nous a offert par le passé, l'amenant à puiser plus profondément en lui. Un défi exigeant, parfois éprouvant, mais qui l'a fait grandir comme artiste. Stagner? Non, merci. Mon père disait qu'il n'avait pas besoin de l'informatique au bureau. L'Internet? Même affaire. Il était dépassé. Je pense que j'ai écrit ce personnage pour me confronter et me rappeler que je dois m'adapter pour rester pertinent. Cette mise à jour constante, Martin Matt la doit aussi aux autres. Je suis bien entouré. Je suis en amour. Tourner avec des acteurs et actrices dans la trentaine, rester à l'écoute de ce qui se passe, échanger avec mes enfants de 21 et 23 ans, ça me confronte à leurs idées et ça m'aide à évoluer. Changer de cap, même au sommet. Humoriste, acteur, auteur, scénariste et producteur, Martin Matt enchaîne les succès depuis 3 décennies. On pourrait penser que celui qui a étudié en administration a bien planifié chaque étape de sa progression, mais non. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Mais je pense que je me tanne assez vite. À preuve, il a choisi d'arrêter la première mouture de sa série « Les beaux malaises » alors que le succès était immense. Ça prenait du courage, non? Il ne faut pas trop se poser de questions, même quand on a peur. Malgré le succès et même si on m'encourageait à continuer, j'ai eu besoin de faire autre chose. Même chose avec la scène. J'ai choisi de m'arrêter. Je n'ai aucun mérite. On dirait que j'ai toujours eu besoin de me renouveler. Sinon, j'ai l'impression de me répéter. Mais derrière cette capacité à tourner la page se cache aussi une part de vulnérabilité. Je ne veux pas faire pleurer personne avec ça, mais écrire, c'est difficile pour moi. Je relis, je réécris, je suis dans le doute. Je me demande comment ça sera reçu. Ce doute est un moteur, à condition qu'il ne prenne pas trop de place et qu'il n'affecte pas ma créativité. Ce n'est pas l'image que je dégage, je sais, mais c'est le combat de toute personne qui écrit, je crois. C'est un métier où il faut performer, mais j'essaie de faire du mieux que je peux en me rappelant que le reste ne m'appartient pas. L'urgence de vivre. Trouver l'équilibre entre travailler et prendre le temps de vivre a toujours été un combat pour celui qui avoue avoir parfois étiré l'élastique. Quand mon frère a eu son accident, j'ai ressenti une urgence de vivre sur le plan de l'ambition professionnelle. J'avais envie de me dépasser. Je pense qu'inconsciemment, je voulais être sûre qu'il ne manque de rien. J'ai donc été 25 ans à travailler beaucoup. C'était fou. Je me rappelle d'être tombée de fatigue sur scène. Avec la cinquantaine, Martin s'est enfin rendu compte qu'il avait lui aussi le droit de se poser, qu'il n'était pas toujours obligé d'avoir un projet en cours. Maintenant, j'ai plus envie de savourer la vie. Je sais qu'il faut que j'en profite, que je prenne le temps, que je ne stresse pas trop. J'ai des proches, de beaux enfants. Je suis en forme physiquement, je m'entraîne. Je fais beaucoup de ski alpin, je joue au tennis, j'aime voyager. Serait-il en train d'envisager la retraite? J'ai des amis qui l'ont prise. Moi, je serais moins heureux. Je peux prendre le temps de vivre des choses, mais après un certain temps, ça me pogne dans le ventre. J'ai envie d'écrire. Puis je m'amuse tellement qu'il m'arrive de penser que ça ne se peut pas que ce soit mon métier. Toucher les gens, les faire rire, les divertir, c'est un privilège. Ça fait 30 ans que ça dure. On le sent particulièrement fier de Vitrerie Joyale, dont il vante l'équipe de production. Guillaume Lonergan, le réalisateur, a tourné Empathie récemment. Ça a cliqué entre nous. L'équipe de comédiens et comédiennes est hallucinante. Pierre-Luc Funk, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marie-Lise Bourque, Florence Lompré, Guillaume Cyr et François Chénier y tiennent des rôles. La série, coproduite par Encore pour Amazon MGM Studios, connaîtra sans doute un beau succès. Elle a d'ailleurs été choisie pour la cérémonie de clôture des Séries Mania, le plus gros festival de séries télé au monde. Ce que j'ai fait de bien, l'une de ses belles réussites n'a rien à voir avec la scène ni l'écran, mais avec la fondation qui porte son nom, inspirée par l'accident de voiture qui a coûté l'autonomie à son frère Christian, Martin vient en aide aux gens vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Initialement, il avait prévu de s'engager 5 ans, puis 10. Presque 20 ans plus tard, il y est toujours. Je pense à prendre un peu de recul l'année prochaine. Je suis de chaque conseil d'administration, de chaque décision, de chaque événement. C'est beaucoup de bénévolat. En même temps, je veux continuer à m'impliquer. Cet hiver, la 11e édition des Beaux 4 heures a permis à sa fondation d'amasser 1,1 million de dollars, dit-il, non sans une pointe de fierté. À la base, il espérait ouvrir une seule maison pour les victimes de traumatismes crâniens. Avec les deux qui sont en développement, nous arriverons à 10 cette année. C'est un projet qui soulage beaucoup les familles. Alors quand j'y pense, c'est vraiment quelque chose que je peux mettre dans la colonne de ce que j'ai fait de bien. C'était Martin Matt, j'ai toujours besoin de me renouveler, un texte de Michel Lemieux, paru le 20 mai 2026 dans Virage.
Des graines au gré du vent. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 6 juin 2026 dans la presse. Le printemps, c'est la saison des amours et des enfantements chez bien des espèces végétales. Je parle d'enfantement pour reprendre la formule du biologiste américain Thor Hansen, qui disait que chaque graine est un bébé qui dort avec son lunch. Au printemps, les samars d'ormes et d'érables atterrissent généreusement dans ma cour. Disons que je suis envahi par la marmaille de ces êtres très prolifiques. Si certains végétaux saturent complètement le milieu de graines, c'est pour augmenter leurs chances de gagner à la loterie de la vie qui perpétue les gènes. Imaginez ici une espèce d'arbre dans une forêt où les rongeurs, les champignons, la pourriture, la sécheresse et bien d'autres aléas sont mortels pour les semences. Dans cet endroit hostile, la très grande majorité des graines se font voler leur lunch et n'ont aucune chance de germer. Alors, en multipliant le nombre de semences et en les confiant aux bons soins du vent pour les voyager loin de leur génitrice, on augmente la probabilité qu'une chanceuse tombe à la bonne place et au bon moment, un endroit favorable à sa germination. Le même principe de l'existence est en arrière de la production massive de spermatozoïdes. Ici, sur le chemin qui les mène à l'ovocyte, les pièges mortels sont si nombreux pour les dizaines de millions de spermatozoïdes que le nombre initial de cellules flagellées viables qui peuplent chaque millilitre de sperme est aussi un indicateur de la fertilité. Pour maximaliser le nombre de semences qui survivent jusqu'à la germination, certains arbres misent même sur une stratégie collective appelée le « mast seeding » ou « fructification massive synchronisée ». Ici, comme dans le reste de mon texte, on ne parle évidemment pas de volonté ou de gestes réfléchis, mais de particularités héritées de l'évolution par la sélection naturelle. Cette synchronisation permet de produire tellement de graines que les animaux qui les consomment deviennent aussi saturés qu'un gourmand au buffet des continents. L'important est qu'il reste des rescapés capables de germer après les grandes mangeailles. Ainsi, certains chênes ont ce qu'on appelle des années de forte glandée, des épisodes à la périodicité approximative pendant lesquels le sol est littéralement tapissé de glands. Selon la même stratégie évolutive, les hêtres aussi ont des cycles de fructification massive d'une périodicité irrégulière, souvent espacée de quelques années, des séquences d'abondance appelées année de faine. Pour éloigner leurs graines de leur territoire d'enracinement, les plantes-mères misent, entre autres, sur le transport par l'eau qui fait voguer les noix de coco, les animaux qui transportent des graines accrochées à leur corps ou défèquent celles qu'ils avalent, les humains qui ont organisé la plus grande dispersion de semences de plantes d'intérêt économique sur la planète. Évidemment, il y a aussi la part du vent qui fait planer les samars et autres graines portant un parachute ou une montgolfière, comme celle des pissenlits, des peupliers, des capoquiers, etc. La sélection naturelle qui fait de la recherche et développement sur les plantes à fleurs depuis près de 150 millions d'années a sorti de son laboratoire naturel des semences aux capacités extraordinaires, des trouvailles qui inspirent aujourd'hui nos ingénieurs. Une des graines des plus fascinantes de la biosphère est celle d'une liane qui s'appelle Alsomitra macrocarpa, une plante de la même famille que les courges, les cucurbitacées. Cette semence est équipée de deux larges ailes membraneuses qui lui permettent de voyager sur de longues distances. Sa forme évoque parfaitement un avion de combat furtif. Pas surprenant alors que, dès 1920, les ingénieurs aéronautiques aient essayé de s'approprier son secret. Aussi, c'est en observant le mode de fixation des bardanes, les toques, alors qu'il se promenait avec son chien dans les Alpes en 1941, que Georges Mestral, un ingénieur suisse, a inventé le velcro. Les scientifiques essayent aussi de s'approprier les étonnantes capacités et le design des samars d'érable et des graines de pissenlit pour améliorer la fonctionnalité de l'aérodynamisme de drones ou de robots volants. Le gigantesque monde des graines est une inépuisable source d'inspiration. Il alimente le biomimétisme, une science qui s'inspire des inventions de la sélection naturelle pour améliorer les technologies humaines. Pendant que l'humanité s'inspire du succès des graines et invente des machines toujours plus impressionnantes dans le but de pouvoir quitter une planète brutalisée et épuisée par nos excès, l'érable continue de faire voler ses petits drones biodégradables. Je trouve les missions d'exploration de toutes ces graines beaucoup plus poétiques et respectueuses de la création que l'Odyssée de Sapiens. Le spectacle aérien des samars raconte l'histoire d'une espèce enracinée depuis 60 millions d'années. Un ancêtre qui confie sa descendance au vent en espérant silencieusement que l'une d'elles trouvera quelque part à cette place et de lumière pour continuer leur histoire commune. Naître, survivre, se reproduire et disperser sa descendance sont depuis toujours les moteurs de cette grande entreprise de perpétuation des gènes qu'on appelle la vie. À tous les niveaux de la création, l'existence tient à ce petit geste hautement symbolique. Fabriquer un peu d'avenir, lui donner des racines et des ailes et accepter de le laisser partir. Depuis l'apparition des plantes à fleurs, la descendance des végétaux explore la biosphère de cette façon sans jamais détruire le monde qu'il a vu naître, du moins quand l'humain ne se mêle pas de leurs histoires. Au-delà des prouesses technologiques naturelles de ces graines qui nous inspirent, c'est cette leçon de vie durable qu'on gagnerait à copier et à se remémorer chaque fois qu'on assiste à la grande danse des samars ou qu'on voit un enfant souffler sur une boule de pissenlit pour voir les akènes à aigrettes prendre le large. Pour terminer, je suis désolé pour ceux qui, en lisant mon titre, s'attendaient à une histoire de culotte à terre. C'était « Des graines au gré du vent », un texte de Boucard Diouf, paru le 6 juin 2026 dans La Presse.
Connaissez-vous la technoférence? Un texte de l'équipe de Naître et Grandir, paru le 20 mars 2026 dans Virage. On parle de technoférence lorsque les interactions entre deux personnes sont interrompues parce que l'une d'elles se met à utiliser son téléphone ou un autre écran. Or, faire cela souvent en présence d'un enfant peut entraîner des répercussions négatives sur son développement et son comportement. Des parents et grands-parents peuvent avoir tendance à consulter leur téléphone en présence de leur tout-petit, pensant que c'est sans conséquence. Cela arrive, par exemple, lorsqu'ils arrêtent de jouer avec l'enfant pour répondre à leurs messages, lorsqu'ils regardent des vidéos pendant qu'ils jouent au parc ou lorsqu'ils utilisent leur téléphone à table. Conséquence de la technoférence. Des études indiquent que les parents qui sont souvent distraits par leur téléphone seraient moins attentifs aux émotions et aux besoins de leur enfant et y répondraient moins rapidement. Ces parents soutiendraient d'ailleurs moins leur enfant dans ses apprentissages, exemple, nommer ses émotions, lui donner des instructions pour réussir une tâche. De plus, ils utiliseraient des phrases plus simples et plus courtes. Le fait d'être absorbé par un écran en présence de son enfant pourrait aussi nuire à la qualité de la relation. Quand un parent regarde son téléphone plutôt que son enfant, ce dernier peut se sentir moins important. Les interactions sont aussi moins fréquentes et le parent peut avoir tendance à être moins chaleureux. Conseil pour limiter les effets de la technoférence. Lorsque vous jouez avec votre petit enfant, prenez l'habitude de laisser votre tablette ou votre cellulaire dans une autre pièce. Vous éviterez ainsi de consulter votre appareil de façon automatique. N'apportez pas d'appareil mobile à table. Lors des repas en famille, éteignez-les et mettez-les hors de portée. Désactivez les notifications, ainsi vous ne serez pas dérangé quand vous passez du temps avec votre petit enfant. Déposez tout de suite votre appareil et regardez votre petit enfant lorsqu'il vous parle ou cherche votre attention. Choisissez d'accorder toute votre attention à votre petit enfant, même si vous faites une activité qui vous plaît moins avec lui. Résistez à l'attrait de votre appareil. C'était « Connaissez-vous la technoférence ?» un texte de l'équipe de Naître et grandir, paru le 20 mars 2026 dans Virage.